Arnaud Kalika, bonjour.
Bonjour.
40 ans après Léonid Brejnev, peut-on parler du grand retour de la Russie en Afrique?
Alors, l'Afrique est redevenue l'une des toutes premières priorités de la politique extérieure de la Russie. Ceci dit, parler d'un grand retour de la Russie comme le fut le grand frère soviétique à l'époque est certainement excessif. Ce qu'on peut dire, c'est que la Russie a constaté qu'elle avait laissé passer quelques trains économiques, politiques, militaires également sur le continent africain. Et dans le sillage, si vous voulez, de la politique des sanctions après l'affaire ukrainienne, la Russie a renoué avec son ancienne tradition de la politique étrangère soviétique en direction de l'Afrique sans être soumis aux sanctions.
Voulez-vous dire que depuis qu'elle a annexé la Crimée, la Russie est en conflit avec l'Occident et cherche des appuis en Afrique?
Je veux dire que depuis la crise ukrainienne et la politique des sanctions à la fois européenne et américaine, beaucoup de marchés européens et occidentaux se sont fermés à la Russie et que l'Afrique s'est imposée comme une aire géographique intéressante pour trouver des nouveaux débouchés.
Pourquoi ce premier sommet, cette semaine à Sotchi, est-ce d'abord pour des raisons politiques ou économiques?
Ah, je pense que c'est d'abord une raison politique, c'est pour montrer que la Russie est une puissance de premier rang. C'est toute la politique de Vladimir Poutine qu'il met en place depuis les années 2000. Et puis économique également, parce que en termes de ressources, en termes de débouchés, les conglomérats, c'est Gazprom, Rosneft, toutes les sociétés qui travaillent dans le diamant, dans les métaux rares, cherchent des partenariats et ne peuvent plus se permettre, si vous voulez, de laisser passer les Chinois devant des marchés qu'ils pourraient prendre eux-mêmes.
D'après un document confidentiel russe révélé par notre confrère britannique Le Guardian, les trois pays africains les plus infiltrés par les services russes étaient au début de cette année le Soudan, Madagascar et la Centrafrique. Mais avec la chute d'Omar el-Béchir il y a 6 mois, est-ce que les Russes n'ont pas subi un grave échec?
Alors, les relations entre la Russie et le général el-Béchir ont toujours connu des hauts et des bas, sachant qu'il y a eu quand même beaucoup d'accords signés, notamment des accords qui permettaient aux sociétés militaires privées russes de bénéficier de terrains d'entraînement au Soudan. Donc, par rapport au nouveau système qui est en train d'éclore au Soudan, la Russie se fait assez discrète sur le Soudan.
Donc on peut parler d'un revers politique pour Vladimir Poutine.
On peut parler d'un élément de complexité supplémentaire, en effet.
À Madagascar, en revanche, il semble que les Russes aient réussi une implantation très importante, notamment avec le nouveau président, Ange Radzoel.
Alors Madagascar, moi je ne mettrais pas ça sous l'angle de la nouveauté et en lien avec le nouveau président. Durant l'Union soviétique, Madagascar était considéré comme un pays frère. Et aujourd'hui, en effet, la Russie a renoué avec cette île au travers d'accords de sécurité et de défense, voire même des accords de renseignement, puisque le FSB, les services de renseignement russes, ont ouvert une antenne sur cette île.
Et puis la Centrafrique, c'est le pays où le renforcement de la présence russe est le plus spectaculaire. Peut-on dire que Moscou a chassé Paris du territoire centrafricain?
Je dirais pas ça. Je dirais que Moscou a profité d'une brèche ouverte en 2017 par l'allègement de l'embargo qui a été décidé par l'ONU pour mettre un pied là où elle avait déjà une forme de présence. Maintenant, si les Russes peuvent être présents dans un pays qui est sous l'influence de la France ou d'un autre pays, et si, par la même occasion, ils peuvent nous glisser une petite peau de banane pour nous rappeler que c'est quand même nous qui avons voté les sanctions dans le cadre de la crise ukrainienne, ça, je pense qu'ils le feront volontiers.
Et au-delà de la Centrafrique, peut-on parler d'une campagne anti-française de la part de la Russie en Afrique, notamment contre le franc CFA?
Oui, on peut parler en tout cas d'une campagne contre le franc CFA, c'est-à-dire que la Russie a tendance à appuyer les courants un petit peu souverainistes qui sont contre le franc CFA. On sait aussi que la Russie aimerait être partie prenante aux nouvelles opérations bancaires de création de la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Donc la partie financière me paraît essentielle en effet.
Et est-ce que Moscou soutient certains activistes anti-CFA en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale?
Alors soutient directement, je n'ai pas ces informations, mais en tout cas ils invitent régulièrement certains porte-parole en tout cas de ces courants. Je pense à M. Seba par exemple, qui est un blogueur sénégalais bien connu.
Kémi Séba?
Kémi Séba, donc qui a été reçu à plusieurs reprises dans des instituts et universités en Russie et qui notamment a plaidé contre le franc CFA.
Peut-on dire que la société de sécurité privée Wagner est l'un des bras articulés de Moscou sur le continent africain?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la société militaire privée Wagner, dans son organigramme et dans son actionnariat, elle est rattachée à différentes personnes qui font partie des tout premiers cercles du Kremlin.
Vous pensez à l'homme d'affaires Evgeny Prigogine?
Exactement. Il est à la tête de différentes holdings qui sont un peu monopolistiques sur toute la partie logistique des forces armées russes, donc c'est quand même colossal. Et en effet, dans ces ramifications, on tombe sur Wagner. Vous savez bien que le grand sujet de Vladimir Poutine, c'est de laver l'affront des années Yeltsin, durant lequel la Russie s'est sentie humiliée parce qu'elle avait été rayée des priorités de l'Occident, parce qu'on a voulu la faire disparaître de la carte.
Au Maghreb, la Russie est le premier partenaire militaire de l'Algérie, mais en même temps, Vladimir Poutine est allé saluer le roi Mohamed VI, c'était il y a 12 ans à Rabat. Où va la préférence de Moscou, vers Alger ou vers Rabat ?
Ah, je dirais vers Alger. C'est-à-dire que si la Russie, dans les échanges économiques entre la Russie et l'Afrique, pèse une vingtaine de milliards aujourd'hui, si vous enlevez l'Algérie, l'Égypte, vous n'avez plus grand-chose. Donc oui, l'Algérie d'abord, l'Égypte également. Le Maroc, pour moi, c'est plutôt un partenaire politique sur un fond de rivalité entre le monde russe et le monde occidental à l'époque.
Arnaud Kalika, merci.